Bonjour Frédéric Huttmann au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir par téléphone Jérôme Fruchard. Bonjour.
Bonjour,
Vous êtes
enchanté.
violoncelliste au sein d'un des orchestres les plus prestigieux, on peut le dire, du monde, à savoir le Concertgebouw d'Amsterdam. J'ai bien prononcé ou j'ai mal prononcé le nom de votre orchestre? C'est une question qu'on se pose toujours, nous les Français.
En français, on a tendance à dire Concertgebouw.
Oui.
Si tu en as un peu mieux à nos oreilles, mais effectivement, en néerlandais, ça se prononce Concertgebouw. Donc, vous étiez à peu près.
Voilà donc un des plus beaux orchestres du monde qui a le nom de la salle dans laquelle il joue, puisque c'est un orchestre qui a été créé en 1888. Et donc vous appartenez à cette phalange depuis 13 ans, Jérôme Fruchard. Donc vous avez eu un itinéraire purement français avant d'arriver à Amsterdam.
Oui, donc je suis parisien, donc je suis né à Paris, j'ai grandi et étudié à Paris. Et puis bien sûr, j'ai aussi un peu étudié à l'étranger, comme beaucoup, j'ai eu la chance aussi d'étudier un peu à l'étranger.
Avec
Et puis
Arthur Noras, je crois.
oui, c'est ça, déjà j'ai étudié à Vienne un peu, j'ai fait un échange à Vienne, donc pendant mes études au conservatoire, j'ai fait un an à Vienne. Et ensuite, oui, j'ai étudié à l'Académie Sibelius. Helsinki auprès d'Arthur Noras. Et ensuite, je suis donc rentré en France. Et oui, j'ai intégré l'orchestre de l'Opéra de Paris avant de partir à Amsterdam.
Et alors, il y a combien de musiciens étrangers dans cet orchestre de Concertgebouw d'Amsterdam, Jérôme
Nous
Fruchard?
sommes à peu près une vingtaine de nationalités différentes. Donc, bien sûr, l'orchestre est majoritairement néerlandais, mais plus de la moitié de l'orchestre est étranger. Donc vous avez il y a pas mal de Français, vous avez des Allemands, des Italiens, des Espagnols, des Américains, Japonais, Russes, il y a beaucoup de nationalités différentes dans l'orchestre.
Alors, si j'ai le plaisir de vous interviewer aujourd'hui, c'est notamment à l'occasion d'un concert que va donner votre orchestre dans cette salle magnifique aussi du Gewandhaus de Leipzig, dans le cadre d'un festival Gustav Mahler qui va se tenir au mois de mai prochain. Vous allez donner la cinquième symphonie de Mahler sous la direction de Myung Woon Chung. Et quand on parle Mahler avec quelqu'un comme vous qui appartient à un orchestre comme le Concertgebouw, il y a une tradition incroyable. C'est-à-dire que ça a commencé avec Mahler lui-même, la tradition mahlérienne.
Oui, tout à fait. Tout à fait, on fait partie de ces orchestres privilégiés qui entretiennent une relation assez particulière et très étroite avec Mahler. Aujourd'hui, bien sûr, Mahler fait partie du répertoire de n'importe quel orchestre symphonique. Mais je pense qu'effectivement, le Concertgebouw fut l'un des premiers orchestres à jouer Mahler sous la direction du compositeur et surtout. Le public à Amsterdam fut l'un des, peut-être des rares premiers, en tout cas, à apprécier sa musique à sa juste valeur. Et Mahler avait, dans tous les écrits qu'on peut avoir, des lettres de Mahler à sa femme, dans tout ce qu'on a pu retrouver dans les archives, on sait que Mahler était très touché de l'accueil qu'il a pu recevoir ici à Amsterdam par le public. Parce que sa musique a été énormément appréciée. Et
Oui.
donc et l'orchestre était extrêmement bien préparé parce que ce chef Wilhelm Mengelberg, qui était le chef de l'époque, qui était un proche de Mahler, que Mahler connaissait bien. Voilà, c'était bien sûr un très grand chef qui avait donc comment dire, qui avait fait en sorte que Mahler puisse venir diriger, et donc il avait préparé l'orchestre de manière remarquable, et ce qui fait que voilà, Mahler a pu être extrêmement touché et extrêmement agréablement, en tout cas surpris, de voir que l'orchestre a pu jouer sa musique non seulement très bien, et en plus, voilà, de voir que le public fut extrêmement enthousiaste par rapport à sa musique.
C'est un paradoxe. Mengelberg, c'est quand même un paradoxe, parce que c'est un chef qui a dirigé votre orchestre jusqu'en 1945, un des grands chefs du XXe siècle, mais, et qui a fait connaître Mahler, justement, vous le dites, notamment à votre public, et qui après a été exclu de l'orchestre après-guerre pour ses accointances avec le nazisme. Donc c'est quand même un étrange paradoxe que ce soit ce chef-là qui ait tellement popularisé la musique de Mahler.
Oui, ça malheureusement, ça reste encore un point un peu délicat. Bon, effectivement, oui, ça peut certainement rester un paradoxe. Je pense ça pour le coup, ce n'est pas forcément un dossier que je maîtrise bien.
Ah non, mais vous, je voulais pas vous gêner, Jérôme Fruchin, avec ça, mais. C'est vrai que on est un peu en dehors du domaine musical, mais Mengelberg, effectivement, à la fois il symbolise cette popularisation de la musique de Mahler et ses pages noires.
Popularisation de la musique de Mahler, il symbolise aussi, et pas que au niveau de Mahler, il a aussi instauré cette tradition de la passion de Bach qui est jouée donc chaque année. C'est un pays qui est quand même de culture protestante. Une culture protestante qui est assez ancrée dans la société. Et donc, je sais qu'au niveau, dans les années 20, et ça faisait déjà quelques temps que ça durait, mais dans les années 20, Mengelberg a instauré le fait de jouer, que l'orchestre du Concertgebouw joue la passion, que ce soit Saint-Mathieu ou Saint-Jean, et que tous les ans, cette passion soit jouée dans le Concertgebouw. Et donc, c'est une tradition qui est là, qu'on continue. On l'a encore joué il y a deux semaines. On a joué Saint-Mathieu, donc c'est. Il a été, comme c'est un chef qui était là pendant 50 ans, c'est quand même considérable, il a eu le temps et le loisir de créer, si vous voulez, beaucoup de choses. Et on parle beaucoup de la musique de Mahler, parce qu'aujourd'hui c'est l'un des plus grands compositeurs du fin 19e, début 20e, mais il a fait venir plein d'autres compositeurs. Et bien sûr, des compositeurs comme Strauss, ou des compositeurs ensuite comme... même les compositeurs français comme Debussy, un peu moins, mais Ravel, plus aussi, est venu diriger aussi lui-même l'orchestre. Et je sais que Mengelberg y est aussi pour... il était pour beaucoup, ou Bartok, ou des comme ça. Donc il y a eu beaucoup de... Comment dire, il a été très... Il a fait beaucoup. C'était un personnage important en tant que chef, mais c'était une figure musicale, en tout cas, du début du XXe siècle. Donc... Oui, il a fait des choses
oui,
très bien, heureusement moins bonnes.
Peu de chefs sont restés aussi longtemps à la tête d'un orchestre. Je crois qu'il y a Eugène Ormandie à Philadelphie ou quelques autres, mais effectivement, il y a peu de chefs qui ont laissé leur nom et leur empreinte sur un orchestre comme lui. Jérôme Fruchard, justement, à propos de son, vous êtes entré il y a à peu près 13 ans au sein de cet orchestre du Concertgebouw d'Amsterdam, qui est un des orchestres les plus splendides de la terre entière. Il y a quand même un son particulier. Quand vous intégrez un orchestre comme celui-là, comment ça se passe? Parce que ce son, il reste. Moi, l'orchestre, je l'ai entendu il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 10 ans, l'année dernière. Il y a toujours ce son qui est si prenant, ces cordes qui vous enveloppent. Donc, quand vous entrez dans un orchestre comme ça, comment ça se passe?
Quand on entre dans un orchestre comme ça, on entre déjà dans un bâtiment.
Oui.
Dans un bâtiment qui est la salle de concert. Rebau, ça veut dire salle de concert, simplement. Rebau, c'est bâtiment, vous voyez, en néerlandais. Donc c'est le palais de concert, la salle de concert. Vous entrez dans un lieu qui est bien entendu mythique, mais qui a façonné, qui a fait l'orchestre. En effet, il n'y a pas que la salle, mais la salle, en tout cas, a sa responsabilité dans les qualités de l'orchestre, aussi bien dans les qualités que dans les défauts. Mais en tout cas, on est, je pense, comme on a la chance de travailler, de répéter dans cette salle et de jouer dans cette salle, si vous voulez, obligatoirement, la salle influe énormément sur le jeu des musiciens et sur la manière d'appréhender le son. Et nous avons une salle qui est extrêmement généreuse, qui offre énormément de rondeur, qui offre énormément de souplesse dans le son. Vous n'avez pas besoin de forcer, vous n'avez pas besoin, ça projette beaucoup, et surtout ça remplit énormément. Et forcément, cette manière de jouer, l'orchestre travaille dans cette salle depuis plus de 100 ans, donc forcément la manière de jouer des gens en ressent, obligatoirement. Et quand vous entrez dans un collectif comme celui-là, vous êtes obligé, à un moment donné, de vous fondre dedans. Et au bout d'un moment, votre manière de jouer, votre manière d'appréhender le son, sans même vous en rendre compte, finit par s'adapter, finit par changer. Vous êtes influencé par les collègues autour, qui sont là depuis plus longtemps que vous, et au bout d'un moment, vous finissez par jouer, non pas par jouer comme un tel ou un tel, parce que chacun joue comme il est, Mais vous finissez forcément par vous adapter à un jeu qui est, lui, intrinsèquement lié à l'acoustique de la salle. Vous avez en plus les différents chefs, les différents directeurs musicaux qui ont pu être là, qui ont pu aussi influer beaucoup sur la manière de jouer. Donc, vous savez, il y a beaucoup de choses, mais on n'en est pas forcément conscient lorsqu'on rentre dans l'orchestre, parce que c'est souvent une période assez belle où on découvre de nouvelles personnes, mais c'est au bout d'un moment, moi je m'aperçois maintenant, au bout d'une dizaine d'années, que j'ai changé beaucoup de choses dans ma manière de jouer. Et je sais que c'est le cas chez beaucoup de gens.
Alors on parlait de Wilhelm Mengelberg, qui était le premier grand chef de votre orchestre. Après, se sont succédés une série de très grands chefs mahlériens. Il y a eu pendant une longue période aussi Bernard Haitink. Alors lui, c'était de 1961 à 1988. Il a laissé au moins une, peut-être plus, intégrale des symphonies de Mahler absolument mémorable. Vous avez joué sous sa direction, j'imagine, bien qu'il était plus...
Oui, bien sûr, j'ai eu la chance de jouer plusieurs fois, de nombreuses fois sous cette direction.
Vous avez joué les symphonies de Mahler avec lui
Oui, j'ai joué les symphonies de Mahler, malheureusement pas.
Oui.
J'ai joué la 9e symphonie de Mahler.
C'est pas mal.
C'est déjà pas mal, mais je n'ai pas forcément eu, si je réfléchis bien, j'ai joué pas mal de fois. Bruckner, mais ça fait une malheur, je n'ai joué, à ma connaissance, je n'ai joué que la 9e. Bon, c'est pas mal, mais je sais qu'à la fin, il dirigeait, j'ai eu la chance de jouer avec lui, et Haitink fait partie de ces grands chefs qui jusqu'au bout est resté un immense chef. La vieillesse n'a pas eu de fait sur lui. Il est resté extraordinaire jusqu'au bout avec une baguette absolument délicieuse et sublime. Et c'est vrai qu'il dirigeait un répertoire qu'il connaissait et qu'il maîtrisait bien, surtout Bruckner, Mahler ou Brahms encore. Mais c'est vrai que Mahler, je n'ai fait, moi, que la 9e symphonie avec lui. Plusieurs fois, dans plusieurs années différentes, même dans d'autres orchestres avec lui. Mais c'est vrai que c'était à chaque fois un moment... très particulier, très privilégié. On sent que là, on s'approche d'une certaine vérité. C'était des moments, je pense, qu'on n'oubliera pas.
Oui, mais alors justement, pour nous, ça reste très mystérieux, parce qu'un orchestre comme le vôtre, justement, qui a une telle maîtrise technique et du son, qu'est-ce qui distingue un chef comme ça qui arrive? Qu'est-ce qui vous transmet à vous? Et comment ça se passe, le message qu'un chef de cette envergure vous transmet, Jérôme Fruchat?
Je pense que c'est mystérieux aussi pour nous aussi. Et c'est mystérieux pour tout le monde. Je pense que, et surtout avec quelqu'un comme Haitink, qui était un chef qui avait la décence, je dis la décence, je ne veux surtout insulter personne,
qui
avait la décence de peu parler. C'était quelqu'un de... Je ne le connaissais pas personnellement assez bien pour prétendre quoi que ce soit, mais il était assez discret et il arrivait, il avait bien sûr une partition qu'il maîtrisait totalement, avec un répertoire que l'orchestre connaissait bien. Et comme c'est quelqu'un qui arrivait à... Vous savez, c'est quelqu'un qui arrivait à mettre tout le monde à l'aise avec une battue qui est très très claire, qui est très organique, qui est très pure. Et à partir de ce moment, vous avez une pulsation, vous avez ce rythme commun qui arrive à être insoufflé à tout le monde. Chacun peut se retrouver facilement. Et à partir de ce moment-là, toutes les choses se font simplement. Après, arriver à délivrer le message, je ne pense pas qu'il y avait... en tout cas, je pense que lui est tout à fait capable et que vous auriez pu, si vous l'aviez interviewé, il aurait pu vous parler, je pense, pendant des heures de la musique de Mahler, du message, du caractère... métaphysique, comment dire, philosophique, tout ce que vous voulez, mais il était au moment de répéter, on n'est pas forcément là pour ça, on est là pour, on a peu de temps de répétition, on est là pour faire en sorte que cette musique, que on est 80 musiciens sur scène, que tout arrive à peu près à s'emboîter, que tout arrive à marcher ensemble convenablement. Et il faisait ça avec énormément d'humilité et énormément de simplicité. Et finalement, la musique de Mahler arrivait, et c'est une qualité qui est rare finalement chez un chef, et qu'avec tout ça, finalement, le texte, la musique, le fond, le message finalement, arrive à être délivré à se faire tout seul. Si vous voulez, ce sont des lignes musicales extrêmement bien construites, ce sont des dynamiques extrêmement bien maîtrisées. Vous avez des dynamiques qui tombent dans des extrêmes, dans des pianos extrêmement beaux, dans des fortés qui sont jamais trop forts, qui sont jamais durs. Vous avez donc une maîtrise du son, un panel sonore qui est énorme, une très grande richesse. Et puis à partir de là, je vous dis des phrases musicales qui sont construites, tout devient évident. Donc la musique, si vous voulez, devient plus claire, devient plus simple. Et donc forcément, quand chaque musicien comprend et reçoit ça d'une manière beaucoup plus évidente, forcément l'auditeur va en être aussi touché de cette manière-là. Mais tout se fait, vous voyez, de manière assez simple. Il n'y a pas forcément de grands discours, il n'y a pas de grandes révolutions. Mais c'est finalement ça être chef d'orchestre, c'est d'arriver et de faire avec peu, avec des gestes, arriver à faire en sorte que chaque musicien arrive à donner le meilleur de lui-même et à comprendre ce qui se passe tout autour de lui. Et surtout dans une partition comme Mahler, qui est souvent assez complexe, assez fournie, la musique en elle-même doit ressortir.
C'est complexe et fourni, puis en plus les symphonies sont très longues. La plus courte dure une heure, la quatrième ou la première. C'est une épreuve physique pour les musiciens que vous êtes, Jérôme Fruchard. C'est les symphonies de Mahler.
Oui, c'est une épreuve surtout au niveau de la concentration. Bien sûr, ce n'est rien comparé à un opéra. J'ai pu faire de l'opéra. C'est pas comparable physiquement. L'opéra est beaucoup plus fatigant, mais vous n'avez pas la même concentration. Effectivement, quand vous jouez la cinquième symphonie de Mahler, par exemple, ou la septième, la neuvième, ce sont des œuvres qui sont effectivement assez longues. La sixième qu'on a jouée l'été dernier, c'est une œuvre assez longue. Ce sont des œuvres longues et qui demandent un investissement total. Mais quand je parle d'investissement total, c'est total au niveau concentration, au niveau émotionnel, au niveau humain. Ce sont des œuvres qui demandent ça. Si vous voulez vraiment tenter d'entrer dans le texte, dans la musique, ce que ça demande un investissement considérable. Donc oui, effectivement, c'est assez fatigant, mais bon, ça va.
Jérôme Fruchard, le 20 mai prochain, dans le cadre de ce festival Mahler de Leipzig, je vous donnerai la cinquième symphonie sous la direction de Myung-Hoon Chung. C'est un chef qui vous a beaucoup dirigé aussi.
Oui, tout à fait. Il est assez... Il fait partie des fidèles chefs qui viennent quasiment chaque année nous diriger. Et il a une vraie... Il y a une relation assez bonne qui s'est créée au fur et à mesure des années. Et je dois dire que c'est quelqu'un qu'on a énormément de plaisir à retrouver. C'est quelqu'un qui se... Oserais-je dire qui se bonifie, que je trouve... de meilleur en meilleur, je ne sais pas. Il y a vraiment quelque chose d'assez particulier. Et c'est quelqu'un qui a un résultat immédiat sur le son, sur la... Il a, avec le charisme, qu'il peut avoir la prestance, avec le rythme, avec la manière dont il est centré sur scène, il a un résultat qui est quasi immédiat. Et peu de chefs ont ça, je trouve. Et donc c'est un grand plaisir de travailler avec lui.
Donc vous jouerez la cinquième, qui est une des plus populaires, qui avait été popularisée bien sûr par le film Mort à Venise de Visconti, mais c'est quand même extraordinaire parce que Mahler, vous le disiez, enfin, vous étiez une des rares villes à Amsterdam à avoir une certaine popularité de la musique de Mahler. Enfin, il a fallu attendre l'après-guerre, et notamment Bernstein ou des chefs tels que lui, pour que cette musique devienne aussi populaire et ait autant de succès dans les salles de concert. Mais aujourd'hui, c'est programmé partout.
Aujourd'hui, c'est programmé partout, tout à fait. On va dire qu'il aura eu un succès à titre posthume. Bon, Mahler était avant tout un chef d'orchestre, dire avant tout pour nous, ça reste un immense compositeur. Mais à l'époque de son vivant, c'était un chef d'orchestre illustre, l'un des plus grands chefs d'orchestre qui existait. Il composait l'été, lorsqu'il avait du temps de libre. Il était extrêmement occupé. Il n'avait que le temps de composer, et c'est ce qu'il aimait par-dessus tout faire, composer. On a du mal aujourd'hui à se rendre compte de qui il était vraiment. C'était un chef,
oui.
Très grand chef d'orchestre. comme vous parliez de marketing ou de chef comme Johnson. Voilà, je ne sais pas si on peut comparer Mahler à ces personnalités-là, mais en tout cas, c'était au niveau de la carrière, au niveau de la renommée, c'était un immense chef d'orchestre. Et donc peut-être que, je ne sais pas, bien sûr, comme tout le monde, j'ai lu des livres, j'ai des écrits, je ne sais pas s'il était prêt à recevoir, à accepter, à recevoir ça, et puis surtout de voir il est allé tellement loin, il a tordu tous les principes. Ils peuvent dire, il est allé très loin, il est peut-être allé dire trop loin. Les gens étaient peut-être pas encore préparés à ça. Il est pas loin de la musique d'Auberg quand vous écoutez ses dernières œuvres. Vous êtes dans la 9e symphonie, vous êtes dans les chants de la terre, vous êtes dans la 10e, l'adagio de la 10e. Vous êtes tout près de Berg. Je sais que c'est ce chef, c'est Daniel Harding qui dit pas, c'est très juste. Il dit Mahler aurait vécu 10 ans de plus, il composait Loulou, bien sûr, c'est exagéré, mais c'est pas forcément faux, parce que on voit bien qu'il était, visionnaire, je sais pas, mais en tout cas, il est allé très loin, et je pense que les gens n'étaient pas forcément, le public n'était pas forcément prêt à ça.
Jérôme Fruchin, vous parliez de Maurice Johnson, qui a aussi été un des très grands chefs de votre orchestre, qui est malheureusement trop tôt disparu. Il était chef du Concertgebouw d'Amsterdam de 2004 à 2015. Lui, vous l'avez bien connu. C'était vraiment une époque où vous étiez au sein de l'orchestre.
Oui, donc quand je suis arrivé, je suis rentré à l'orchestre en 2010 et il était là. Mais j'ai eu la chance de jouer en 6 saisons sous ce directeur. Et ce ne sont que des grands souvenirs, je pense, pour moi, bien entendu. Un énorme... on le regrette tous, il nous manque tous. Et partout où il est passé, tous les musiciens sont d'anime. C'était un immense chef. Et au-delà de ça, c'était une personnalité. C'était un homme vraiment, vraiment remarquable. Ce qu'il dégageait, encore une fois... sur scène et l'attention qu'il pouvait avoir par rapport aux musiciens, par rapport à la musique, l'humilité, la sincérité, c'était des valeurs absolument inestimables et qui nous manquent. Il est parti bien trop tôt, bien malheureusement, mais voilà, on se souvient de lui en tout cas. On se souvient de lui parce qu'on a joué beaucoup avec lui, on a joué toutes les symphonies avec lui, et donc on pense à lui. Je sais que c'est peu de choses, mais on pense à lui beaucoup. Je sais qu'à l'orchestre, ça nous arrive très très souvent de dire « Ah oui, ça, on s'en souvient quand on a joué avec Maurice Johnson, cette œuvre-là, c'était quelque chose. » Et vous... Au-delà de ça, c'est sa personnalité qui a marqué, je pense, surtout.
Vous parliez du fait que vous êtes entré dans l'orchestre en 2010. Comment on intègre un orchestre comme celui-ci? Comment sont sélectionnés les musiciens?
Tout simplement que par concours, un concours d'orchestre, comme dans plein de pays, comme les mêmes concours que vous pouvez avoir en France, en Allemagne, en Suisse, voilà, des concours qui se passent, qui sont en 3 tours. Un premier tour, ensuite une sélection, deuxième tour, puis une finale. Voilà. Et donc voilà, c'est un concours. Il y a d'abord une sélection sur le dossier, et puis ensuite, on voit votre dossier est sélectionné, le curriculum à peu près. Ensuite, vous êtes invité à passer le concours, et voilà, tout simplement.
Et les autres musiciens, ils ont leur mot à dire, les musiciens du même pupitre, les violoncellistes en l'occurrence.
Oui, alors enfin, je sais que selon les orchestres ou selon les pays, ça peut varier. Vous pouvez avoir un jury composé de quelques musiciens avec en plus des gens de la mission, des gens. Je sais que c'est comme ça que ça se passe, notamment à l'Opéra de Paris, parce que je parle de ce que je connais. Je sais que c'est comme ça à l'Opéra. Et dans d'autres orchestres français, il me semble. Là, je sais que en Allemagne, vous avez quasiment tout l'orchestre, pas l'intégralité, mais vous avez une grosse partie de l'orchestre qui vote tout simplement. Et chez nous, c'est quelque chose un peu entre les deux. Vous avez un comité entre 20 et 30 musiciens qui est donc fourni uniquement de musiciens de l'orchestre. Et donc, selon l'instrument qu'on va recruter, vous avez le pupitre qui est majoritairement représenté, l'instrument concerné, et vous avez aussi le schlepp. le chef qui est là. Le chef titulaire, quand on a un chef titulaire, le chef titulaire est là et il assiste au concours et il vote tout simplement. Il compte comme une voix parmi les autres.
Il y a eu un autre chef dont on n'a pas parlé, enfin il y en a eu beaucoup, des chefs importants pour votre orchestre. Il y a eu Ricardo Chailly avec lequel votre orchestre a gravé une intégrale. Vous n'étiez pas encore dans cet orchestre, mais c'est quand même un chef très différent de Haitink ou les autres.
Il revient régulièrement jouer, il a un titre de chef émérite. On a joué avec lui il y a quelques semaines, on a fait tout un programme Rachmaninoff. C'est un immense maestro avec une baguette splendide. Bien sûr, je n'ai pas eu le privilège de jouer du Mahler avec lui. Je fais plein d'autres choses, mais pas forcément du Mahler. Mais voilà, c'est quelqu'un qui est resté 16 ans. 16 ans au sein de l'orchestre, c'est pas rien. Donc, il a vraiment eu le temps de faire quelque chose, d'amener, je pense, une certaine rigueur sur le plan technique. Je pense une sorte de renouveau et qui a certainement fait du bien à un moment donné, quelle que soit la personne avec qui vous êtes. Je pense que voilà, Haitink était resté 28 ans ou 27 ans, quelque chose comme ça, ce qui est considérable.
Oui. 61-88, Bernard Haitink. Moi, j'ai des notes sous les yeux, parce que j'ai une mémoire particulière.
Donc, ça fait
27 ans.
Voilà, je suis arrivé et a apporté vraiment un nouveau regard, autre chose. Une autre énergie, quelque chose d'assez différent. Je ne vous dis pas forcément de malheur, mais pour c'est quelque chose. Et puis c'est particulier, parce qu'il connaît bien l'orchestre. Raphaël Grève, il connaît la salle, il connaît l'orchestre, même si l'orchestre a quand même beaucoup changé depuis qu'il est parti. Mais malgré tout, il connaît bien. Donc c'est assez agréable. Il est en terrain connu.
Bon, bah Jérôme Fruchard, je rappelle que vous faites partie, en tant que violoncelliste, de cet orchestre merveilleux qui est l'orchestre du Concertgebouw d'Amsterdam. Vous allez jouer le 20 mai prochain dans le cadre de ce festival Mahler à Leipzig, où il y aura l'intégrale des symphonies avec aussi d'autres grands orchestres. Et on a la chance d'entendre votre orchestre une fois par an, au moins à Paris. Donc là, on a la chance de vous entendre dans la Philharmonie, parce que vous avez parlé du fait que votre orchestre est lié tellement à cette salle, mais justement, vous êtes habitué à un son particulier qui est tellement adapté à votre orchestre et réciproquement. Parfois, vous devez vous retrouver dans des circonstances où justement le son n'est pas à la hauteur des attentes de votre orchestre.
Je pense que oui. Oui et non. Oui. C'est-à-dire que nous avons bien sûr cette chance, je pense qu'on s'en rend compte, on est dans une salle qui est exceptionnelle, qui est très belle, qui n'est pas simple, c'est-à-dire que c'est une salle qui n'est pas facile, qui ne facilite pas forcément la vie. Ça va être beau. Quand on est dans le public, ça sonne bien sûr toujours, c'est une salle assez exceptionnelle. Quand on est... À chaque fois que j'écoute un concert dans cette salle, je suis subjugué, je me dis à chaque fois que c'est beau. Mais quand on est sur scène, ce n'est pas forcément une salle qui est... Enfin, pour la mise en place, pour la précision, il faut que les balances soient très bien réglées. Mais après, on a, bien sûr, comme on tourne beaucoup, on a la chance de jouer dans d'autres salles. Et quand vous allez jouer dans une salle comme, la Philharmonie de Berlin ou le Musikverein à Vienne, croyez-moi, ce sont des salles très différentes, mais ce sont des salles tout aussi exceptionnelles. Ce sont des salles qui ont une acoustique sublime et qui apportent autre chose et qui sont... Ils sont démentes, et donc on a un plaisir immense à les jouer dans ces salles-là. Et quand on se retrouve à la Philharmonie de Paris, bien sûr pour moi, qui suis parisien, je suis toujours très heureux de venir jouer là-bas, mais en plus je suis très heureux de voir qu'on a une salle à Paris qui est une vraie réussite. Oui. Au niveau de l'acoustique, je pense qu'on peut vraiment parler de réussite. Et l'orchestre est très 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 content chaque fois de venir là-bas, parce que l'acoustique bien sûr est très différente, mais je pense qu'on arrive, en tout cas nous on le sent comme ça, on arrive à être nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on arrive à jouer selon ce qu'on sait faire, selon nos qualités, et dans une acoustique qui est extrêmement différente du Concertgebouw. Mais une acoustique qui est peut-être un peu facile, je parle pour la mise en place, mais après qui permet énormément, comme c'est une salle qui est immense, qui permet un laisser-aller et qui est très agréable. Donc on peut dire qu'on est gâté à ce niveau-là. quand on va jouer dans des salles comme ça, ou quand on va jouer à Lucerne, dans KKL, ou je sais pas, dans d'autres salles en Allemagne, des salles qui peuvent être très très belles, ou quand vous allez jouer au Japon, dans des salles qui sont magnifiques, c'est quand même toujours un privilège. Mais on est toujours content de revenir à la maison et de voir que chez nous, on a quand même quelque chose, on a un bijou, et voilà, c'est assez gratifiant.
Bah nous, en tout cas, on est toujours tellement heureux de vous entendre. Donc, je rappelle ce concert le 20 mai à Leipzig. Et puis, vous revenez fréquemment à Paris et dans le monde entier. Et puis, pour ceux qui n'ont pas la chance de vous écouter en concert, il y a toutes ces intégrales, enfin, je ne sais pas combien de centaines de disques à enregistrer votre orchestre avec les plus grands chefs. Et puis, il y a cette intégrale, moi, que j'adore avec Haitink. Bon, vous n'avez pas participé à cette intégrale, mais il y a tellement d'enregistrements sublimes de votre orchestre qu'on peut largement se consoler. En les écoutant, Jérôme Fruchard, il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invité par téléphone.
Avec plaisir, ce fut un grand plaisir. Merci beaucoup.